personne était complètement oubliée, ou en tout cas il y a le peu de visites dans une année que cette personne recevait, ça me touchait. Et je me suis promise effectivement de que jamais mes parents ne vivraient une telle situation. À un moment donné, effectivement, oui, on part, on est, enfin, moi je suis au Canada, ma mère est en Guadeloupe par exemple. Mon père est décédé il y a 2 ans, mais je suis touchée par cette le fait qu'on puisse laisser comme ça ben nos aînés livrés à eux-mêmes. Ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents, ils nous ont vus grandir, ils nous ont aidés, ils ont été là pour nous. Donc c'est à notre tour effectivement d'être là aussi pour eux. Donc qu'est-ce que la société peut faire? Il y a effectivement du domaine public, il y a du domaine privé, il y a du domaine familial d'abord, où nous avons une responsabilité collective de veiller sur nos aînés, d'en prendre soin. C'est ça aussi la solidarité. Quand on parle de co-construction et quand on parle d'initiative au niveau des aînés, il faut que collectivement, pour qu'on puisse rompre l'isolement des aînés, il y a tout un travail à faire. Ce n'est pas que d'un côté la science ou que d'un côté les recherches actions ou que d'un côté effectivement les gens qui ont la tête dans le guidon, les organismes communautaires qui se donnent beaucoup, il y a beaucoup de bénévolat aussi. Donc c'est tout cela où il y a des pouvoirs publics qui doivent mettre des moyens en œuvre pour aider les organismes communautaires, les proches aidants, parce que là aussi c'est pas facile, les proches aidants aussi une responsabilité. Donc en fait c'est tout un maillage. On doit, je pense, faire en sorte de ne pas vivre les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Et cette problématique là, elle n'est pas, c'est pas uniquement pour les aînés, c'est pour toute notre société. Donc comment faire corps avec tout ça? Donc c'est, comme je le disais, c'est à travers la recherche, c'est à travers la recherche action, c'est à travers les associations, c'est tous les acteurs de notre société, comment on peut se mettre ensemble de façon collective pour que nous puissions avancer dans un seul sens où on a comme objectif principal la bientraitance des aînés, mais que on puisse faire les choses ensemble et pas que les uns et les autres se tirent dans les pattes pour... parce que quand on parle de toutes ces questions-là au niveau des organismes communautaires et de tout le reste, il y a aussi la question des subventions. Il y a toute cette question effectivement des sous qu'on cherche, que ce soit privé ou public. Il faut aller chercher des sous pour mettre en place ces actions. Donc quand un programme qui est censé durer 4 ans ou 3 ans, enfin peu importe, qui a une durée de vie, les actions d'un organisme communautaire, il y a des associations qui existent depuis très longtemps. Et donc une fois que le financement est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On continue certes sous une autre forme avec le bénévolat, l'engagement social et tout le reste. N'en reste-t-il pas moins qu'il y a des moyens importants qu'il faut mettre en place pour pouvoir avancer? Donc c'est tout ça qu'on doit mettre en mouvement de façon concertée et non pas qu'un groupe arrive avec des idées parce qu'il y a des études qui ont été faites et puis bon finalement on met tout le monde dans le sac, tu prends ce que tu veux dedans et tu essayes d'avancer avec ça. C'est comment ensemble on s'assoit autour d'une table et on voit comment on peut mettre des choses en place pour pouvoir faire avancer tout cela avec en ligne de mire et au cœur de tout projet l'aîné, parce que le but c'est pas d'infantiliser l'aîné non plus. Il y a des aînés qui se sentent infantilisés, on va faire pour vous. Non, c'est de faire avec, c'est d'accompagner. Ma dernière mission avant effectivement d'être la directrice de la chaire publique à l'Allier, ma dernière mission, ma précédente mission, ça a été effectivement d'être chargé de projet pour des aînés de plus de 65 ans et plus. J'ai autant que possible, l'idée c'était de les accompagner et non pas de faire pour eux. C'est on s'assoit ensemble, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, quel type d'activité, pour quelle prise en compte. Et quand on fait ça, quand on demande aux aînés ce qu'ils veulent faire, eh bien ils ont une multitude d'idées à formuler. C'est très facile de s'asseoir dans un coin et puis de mettre sur un bout de papier ce que les aînés font à droite à gauche et faire un copier-coller. Mais à quel moment on a demandé à l'aîné, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qui te plairait? À quel moment? À quel rythme? Donc il y a des choses qui tendent à changer, et c'est tant mieux d'ailleurs. Et je pense que ça va, que c'est toujours en action concertée, toujours demander au groupe, à notre public cible, comment vous voulez qu'on mène les choses, avec vous et non pas pour vous.
Un grand merci à Mélina Semou d'avoir partagé cette réflexion avec nous. Et sa réflexion rejoint un peu la philosophie de la Fondation Love and Care. Hein. On ne fait pas pour les autres, mais on fait avec eux. On ne crée pas le développement pour les autres, mais on crée le développement avec eux. Madame Leclois, donc, une réaction. Et puis, pour revenir encore sur toutes ces activités de la Fondation.
Oui, je voulais juste dire un petit quelque chose avant, par rapport à ce qui vient
de Mélina, oui.
Qui vient d'être, oui, ce que Mélina vient de dire. Effectivement, on fait le avec et le pour, ça me rejoint à 100%. Il y a une chose dont on ne parle pas jamais, c'est l'agisme. Et l'agisme, c'est un frein extrêmement important pour le avec. Parce que la perception que les gens ont des personnes âgées qui sont... Quand j'entends parler de 65 ans, ça m'énerve parce que pour moi, 65 ans, ça veut rien dire. C'est l'âge n'a pas d'importance. C'est la personne qui a de l'importance. Donc, moi, je m'occupe pas de ça, l'âge. Mais l'âgisme, on fait face à l'âgisme constamment dans notre société ici. Contrairement en Afrique. En Afrique, il n'y a pas d'âgisme parce que plus tu vieillis, plus tu as de la valeur dans la société. Plus t'es écouté, parce que on a le respect de l'âge, on a le respect des personnes qui ont développé la sagesse, alors que nous, dans nos sociétés, on a perdu ça complètement, et on a remplacé ça par l'âgisme. Alors, tu as 65 ans, tu es à la retraite, tu vaux plus grand-chose. On t'a mis sur une tablette, tu vois, c'est comme ça qu'on pense ici. Et puis ça, c'est un des freins les plus importants. Ça, c'est mon point de vue. OK. Si on revient à la fondation, moi, ça me rend... Je suis passionnée parce que dans le débriefing de la forme du programme Accès Savoir, de la communication, j'étais avec les étudiants et j'ai tellement entendu des conneries par rapport aux personnes plus âgées de la part des jeunes étudiants qui étaient là. Là, j'ai réagi à un moment donné parce que le professeur disait rien. J'ai dit, mais ça, c'est de l'âgisme pur et simple. Et puis, il va falloir que vous vous déprogrammiez les jeunes parce que c'est pas bon. On va sur un mur avec ça. Bon, exact. Voilà. Alors, je suis quelqu'un de passionné, comme vous pouvez voir, que l'on parle de l'Afrique, de la Fondation ou de choses que dans lesquelles je me sens impliquée de par mon âge. Donc, voilà. Donc, on parlait de... on va parler des contraintes rapidement parce que il y a une chose qui est restée, je pense, comme séquelle du colonialisme et puis de la dépendance que l'Afrique a continué à avoir envers les ex-pays colonialistes. C'est une perception de soi qui ne reflète pas la capacité réelle de la personne. Le manque de confiance en soi, la sous-estimation de soi, on retrouve ça beaucoup chez les jeunes Africains. Je serais pas capable, j'ai pas la possibilité de le faire. Mais c'est pas juste financier, c'est aussi un état d'esprit. Et j'en parlais hier avec deux jeunes dans la jeune vingtaine, justement, qui m'ont dit carrément qu'ils avaient un énorme problème de confiance en eux-mêmes. Et ça, j'ai vu ça tellement souvent et régulièrement, même avec le groupe avec lequel je travaille présentement, notre groupe de Love and Care en Afrique, au début, c'était comme ça. Maintenant, ils commencent à changer. Hein. Ils ont changé parce que je les ai boostés beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'ils développent plus de confiance en eux-mêmes. De la même façon, ici, il y a aussi une façon de voir l'Afrique qu'il faut changer. Et je pense que il va falloir qu'on fasse plus d'émissions autour de cette question-là parce que Ben oui, je sais, tu veux que j'arrête de parler, mais...
Non, c'est correct. Non, mais c'est tellement intéressant ce que tu dis là, parce qu'il faut changer la vision des choses. On a justement cette incapacité de mettre en valeur la contribution d'une catégorie de personnes. Et là, nous avons parlé des personnes âgées, mais des Africains aussi.
C'est
mais,
la même chose.
Mais il y a un travail à faire, tant du côté de la communauté en général, mais tant du côté de ces personnes aussi, pour les aider à reprendre confiance en elles-mêmes.
Oui, oui, oui. Puis je leur dis toujours, si les paysans chinois, qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'un paysan africain? Dites-moi ça. Un paysan, c'est un paysan. Il a pas le niveau, les niveaux universitaires ou collégial d'études, généralement. C'est un paysan. Il a appris en faisant les choses. La même chose qu'un Africain apprend sur le terrain, en faisant les choses, en répondant à ses besoins, en créant en trouvant des solutions à des problèmes qu'il rencontre. Il les trouve pas dans les livres. Il les trouve dans la vie. Dans la vie.
Exact.
Alors, moi, je leur dis, pourquoi les Africains, le paysan africain serait pas capable d'implanter l'agriculture de précision alors que le paysan chinois l'a fait? Dites-moi ça. Pourquoi?
C'est juste une question d'approche et d'accompagnement aussi.
Et puis, c'est pour ça qu'ils sont tellement enthousiastes. Tu me demandais au début quelle la réaction par rapport à ce qu'on veut faire. C'est extraordinaire. Ça crée un enthousiasme incroyable. Alors, c'est très encourageant.
Pour les personnes qui aimeraient être en contact avec la Fondation Love and Care, ce serait comment? Comment contacter la Fondation?
Ben, il y a ils peuvent m'appeler. Il y a notre site web loveandcareforafrica.com. Il y a toutes nos coordonnées sur le site web. Moi, j'ai le numéro de téléphone de la fondation qui est le 438-522-8490. Donc, les gens peuvent nous appeler. S'ils ont envie de contribuer, ils sont les bienvenus aussi parce que depuis 2 ans, on s'auto-suffit. Alors, voilà, c'est tout.
Voilà, merci beaucoup. Vous écoutez Chiz 94.3. Nous sommes avec Marie-France Langlois. Ça a été un plaisir de faire cet échange. Encore une fois, ben, je souhaite bonne continuité à la Fondation Love and Care et puis j'espère qu'on va en reparler de ce qu'on fait sur le terrain.
Oui, on aura l'occasion. Bientôt, très très bientôt.
Très bientôt. Oui. Un grand merci.
On n'a pas parlé des projets, mais...
Oui, bon, on aura l'occasion.
Peut-être plus tard, quand ça commencera.
Ben, parfait. Merci beaucoup.
Merci.
Donc, ça a été un plaisir d'être avec vous. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Jeunes et Aînés Solidaires. Bonne fin de journée à chacun de vous. Mon nom, c'est Pierre Michelot Jean-Claude.
Je peux enlever ça.
Depuis 25 ans, nous, on est passé à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.